Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
L'architecture et la durabilité sont aujourd'hui étroitement liées, au point de redéfinir notre conception même de l'habitat et de la ville. Cette approche ne se limite pas à la construction, mais s'inscrit dans un changement de paradigme profond où l'architecture est perçue comme un acteur clé de la transition écologique et un vecteur essentiel de la résilience face aux bouleversements climatiques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans votre émission Durabilité, nous allons à la découverte de l'architecture vernaculaire. Et pour en savoir un peu plus, nous recevons Jafar Sijel Massi, architecte et spécialiste bioclimatique, par ailleurs architecte fondateur de l'agence Sijel Massi et Partners. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation.
Bonjour, je vous remercie pour l'invitation.
Alors, sans plus tarder, c'est quoi l'architecture vernaculaire?
Alors, l'architecture vernaculaire, c'est l'architecture sans architecte. C'est l'architecture de nos ancêtres, avant qu'il y ait la planification moderne que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'architecture des villages, l'architecture des campagnes, ou même l'architecture de certaines villes, où c'était un amas de construction, sans forcément de planification en amont. Mmh. Et ce qui a donné, en fait, c'est la construction avec le bon sens du pauvre, le bon sens de la main, de la dextérité, de comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on a et comment est-ce qu'on apprend des anciens. C'est-à-dire que l'architecture vernaculaire, qui est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, est le fruit d'une connaissance empirique qui est transmise de génération en génération. On sait qu'à cet endroit, il ne faut pas construire. On sait que ce matériau, marié à cet autre matériau, donne tel aspect physique, résistant, bioclimatique, etc. Mmh. Et donc, nos anciens, avec l'expérience de leurs anciens, ont réussi à développer une architecture sans architecte qui correspond à un besoin en confort qu'ils avaient à l'époque et en fonction. Voilà.
Et dans cette même dynamique, comment l'architecture vernaculaire, précisément méditerranéenne, répond-elle aux conditions climatiques locales pour améliorer le confort thermique?
Alors, il se trouve que nos ancêtres ont dû s'adapter à un milieu donné. Mmh. Et dans l'architecture méditerranéenne, ou plus spécifiquement marocaine, qui est mon sujet de prédilection, chaque région a développé une architecture qui lui est propre. Alors concrètement, en montagne, on construisait en terre ou en pierre, que ce soit de la pierre sèche, de la pierre de taille, ou de la terre, ça peut être de l'adobe, du torchis, du pisé. Dans les régions sahariennes, chez les nomades, on construisait avec une tente, en fait, on s'abritait sous une tente. À base de fliges, de poils de chameau. Dans les régions typiquement méditerranéennes, sur la côte méditerranéenne ou d'autres côtes atlantiques, on construisait avec de la chaux peinte en blanc. Donc ça aussi, ça répondait à une certaine problématique. Dans d'autres régions, on construisait ce qu'on appelle les tazotas, donc avec de la pierre locale, de la calcarénite, posée tout simplement comme ça grossièrement. On faisait des espèces de dômes, ça s'appelle les tazotas. Dans les villes, donc ce qu'on appelle les médinas, les villes anciennes, médiévales, on a créé un urbanisme particulier avec des petites ruelles qui se donnent de l'ombre, avec très peu d'ouverture sur l'extérieur, plutôt introverti autour d'un riad, un plan avec une fontaine au milieu qui donnait, en fait, c'est une climatisation naturelle Donc l'évaporation de la fontaine à l'intérieur du riad qui se propageait dans les galeries alentour, voilà, avec beaucoup plus de végétation à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a autant d'architecture vernaculaire que de région.
Et également, quels matériaux aujourd'hui utilisés dans l'architecture méditerranéenne sont particulièrement efficaces pour l'isolation thermique et sonore ?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on arrive à adapter le mieux à notre confort moderne et qui répond le mieux aux problématiques environnementales, acoustiques, d'isolation d'aujourd'hui, c'est la terre. On est en train de remettre au goût du jour et de redécouvrir les vertus du matériau terre, mis sous différentes formes. Donc, il y a le pisé, que vous connaissez tous, il y a le bloc de terre comprimé, il y a la daube, il y a le torchis. Mais aujourd'hui, ce qui fonctionne et ce qui correspond le mieux à notre exigence moderne en termes de confort et d'isolation, c'est le bloc de terre comprimé. Donc, mon postulat et notre envie, c'est en fait de traiter la terre d'excavation. Quand on construit, on creuse pour faire nos fondations. Quand on creuse, la terre qu'on dégage, au lieu de la considérer comme un déchet, on la considère comme un matériau noble qu'il suffit de mettre en forme. Donc, ce qu'on a pris de la terre, on va le mettre dans nos murs, on va remplir nos murs avec. Et on va bénéficier donc des vertus de la terre qui peuvent être l'inertie thermique, donc c'est le déphasage, le temps en fait que la chaleur et que les calories traversent notre mur. Donc pour ceux qui connaissent, quand on va dans les Ksour et Kasbah dans nos régions, on sait bien que quand il fait très chaud à l'extérieur, et ben à l'intérieur le climat est modéré, et la nuit quand le climat change totalement avec le différentiel de température, eh ben, la chaleur est restituée. Donc, il se trouve que la nuit, quand il fait zéro peut-être à l'extérieur, ben, à l'intérieur, on a une température qui est agréable. Donc, la terre semble aujourd'hui être l'un des matériaux les plus efficaces, efficients, pour répondre à la fois aux enjeux environnementaux que nous connaissons tous, et à notre besoin de confort. Et en plus, ça régule automatiquement l'hygrométrie. Ça n'a pas de composés organiques volatiles qui peuvent être mauvais pour le système pulmonaire. Et c'est un matériau qui est plein de vertus.
Aujourd'hui encore, par rapport à cette situation, quelle stratégie de ventilation naturelle utilisée dans l'architecture méditerranéenne pourrait être intégrée dans les constructions modernes, entre autres ?
Alors, il y a plusieurs principes bioclimatiques qui ont été inventés par nos ancêtres, qui sont par exemple le malqaf ou les begdir en Iran. Donc, c'est des capteurs de vent, d'accord, qui sont posés au-dessus de la maison comme des espèces de cheminées, voilà, et qui font rentrer le vent naturel qui est orienté de façon à faire rentrer le vent à l'intérieur de la maison pour la ventilation. Il y a le maqfiya, c'est une espèce de bassin de récupération des eaux de pluie qui se trouve en dessous de la maison. On fait en sorte de faire passer du vent dedans et ce vent-là fait s'évaporer l'air et rafraîchit naturellement l'air lequel pénètre à l'intérieur de la maison ou du bâtiment. Il y a aussi les ouvertures hautes, donc on essaye de créer un effet Venturi, donc c'est l'effet entonnoir que vous devez connaître, avec une grande ouverture d'un côté et une petite ouverture de l'autre, donc pour accélérer le débit du vent. Et on fait ça en haut de l'étage, du bâtiment, de façon à accélérer le vent à l'intérieur et créer un effet de succion du vent qui stagne. Et aujourd'hui, en fait, notre postulat, dans notre pratique, on n'est pas des radicaux anti-modernité, anti-technologie. Ce qu'on essaye de faire, c'est trouver la juste harmonie entre le low-tech et le high-tech, donc entre le savoir-faire de nos anciens, les principes, le bon sens bioclimatique, les matériaux locaux à moins de 100 km, faire travailler plus l'ouvrier, c'est-à-dire la main, plutôt que l'industrie et les matériaux importé de l'autre bout du monde. On sait combien ça coûte en termes d'énergie grise, en termes de panne, etc. Et on marie ça avec les nouvelles technologies qui nous sont permises aujourd'hui, comme ce qu'on appelle la GPC, c'est-à-dire le cerveau des équipements du bâtiment, ou les cerveaux moteurs, donc pour les ouvertures automatiques, par exemple des fenêtres, dans le cas de la ventilation, c'est-à-dire on fait en sorte d'ouvrir les fenêtres en fonction de l'heure de la journée. Notre bâtiment s'approche de plus en plus d'un ordinateur, en fait, donc, ou d'un organisme vivant. C'est entre les deux, c'est entre l'organisme vivant et l'ordinateur. Donc on a une multitude de sensors, de capteurs aujourd'hui, donc des capteurs d'humidité, de température, de vent, de présence, de luminosité, etc. Et toutes ces données, toutes ces variables-là, nous permettent de créer, de programmer notre bâtiment de façon à ce qu'il fonctionne en consommant le moins possible, en offrant le maximum de confort possible, et se marier à des principes bioclimatiques simples et anciens, issus ou inspirés de l'architecture vernaculaire, on arrive à faire des bâtiments non pas à zéro CO2, mais qui produisent de l'énergie plus que ce qu'ils en consomment.
D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, par rapport à la modernité, mais aussi à cette adaptation entre le tradit moderne, comme vous venez de le souligner, en quoi aujourd'hui les formes et l'agencement des bâtiments méditerranéens peuvent-ils influencer le confort des occupants dans les régions chaudes, par exemple ?
Alors, ça justement, c'est issu en fait du savoir-faire des anciens, encore une fois, et du bon sens. En fait, chaque climat influe sur la forme. C'est pas c'est-à-dire que on se rend compte, en fait, moi je l'ai découvert grâce à la pratique, que le matériau amène la forme. C'est pas forcément comme ce qu'on dit, la fonction amène la forme, mais le matériau, l'environnement, le climat amène une forme. Donc je m'explique. Dans les maisons traditionnelles, par exemple des médinas, on se retrouve souvent avec une forme carré ou rectangulaire, avec un riad, un patio central, avec une fontaine au milieu, avec beaucoup de symétrie, avec des formes plutôt angulaires, rectangulaires, parce que c'est plus facile de travailler le matériau de cette façon, la structure de cette façon, que de faire par exemple des formes courbes. Mais dans d'autres climats, je dis n'importe quoi, par exemple les Dogons ou dans d'autres ethnies ou dans certaines jungles, par exemple, ils construisaient des cabanes en hauteur, d'autres c'était des maisons circulaires. Le terme pour dire maison en arabe, dar, ça vient de douar, ça vient de cercle. Voilà. Donc La forme qui est issue d'un savoir-faire qui lui-même est issu d'un environnement et des matériaux locaux fait que on arrive à une sorte de plan type. Ce n'est pas forcément voulu, réfléchi, mais plus on veut être efficient, plus on veut être efficace, et plus on arrive à une espèce d'équation qui nous donne en fait un résultat qui est plus ou moins, qui varie plus ou moins, mais qui nous donne une architecture donnée. Donc ça peut être Pazota, ça peut être le riad, ça peut être l'Ursor, ça peut être autre chose. L'igloo, par exemple, on connaît tous l'igloo. L'igloo est dû en fait à la réponse qu'ont trouvé les Inuits ou les Esquimaux, je ne sais plus.
Tout à fait.
Avec leurs matériaux locaux, la seule chose qu'ils avaient, comment est-ce qu'ils pouvaient construire ? Et donc, à force, on est arrivé à l'igloo.
Et très rapidement également, aujourd'hui encore, M. Chidelmassi, quelles leçons sur la durabilité et l'efficacité énergétique moderne peut-on tirer de l'architecture vernaculaire méditerranéenne ?
Alors, cette question tombe à point, parce que moi, mon postulat, c'est que notre continent, l'Afrique, a peut-être une carte à jouer pour l'architecture du futur. Je m'explique. Moi, je m'inscris dans la, la lignée d'architectes africains qui sont très connus comme David Adjaye ou Francis Kéré, lequel a gagné un prix Pritzker, le premier Africain à avoir gagné un prix Pritzker, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les architectes. Et donc, eux-mêmes ont adopté cette démarche de, un, voir comment ont fait les anciens, quels sont les matériaux locaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, et comment est-ce que, bien sûr, on peut le moderniser pour répondre aux enjeux de confort et les enjeux environnementaux d'architecture durable que nous avons aujourd'hui. Voilà, donc mon idée, c'est que vu que l'Afrique et les populations africaines ont encore des traces du passé, ont encore des liens avec leurs ancêtres, eh ben, ils sont en position de pouvoir défendre une architecture, bien sûr moderne, contemporaine, on ne veut pas revenir à la préhistoire, mais on peut dire, voilà, nous, on sait que nos ancêtres ont fait ça, pour telle raison, et nos ancêtres n'avaient pas l'énergie gratuite que nous avons aujourd'hui, n'était pas un système de consommation à outrance et de choses comme ça. Donc, ils ont encore ce juste milieu, ce savoir-faire qui pourra, à mon avis, et je l'espère, inspirer aussi les autres continents.
Voilà. Inspirer les autres continents. Je rappelle que donc, nous étions aujourd'hui avec notre invité, un architecte qui évolue également dans le cadre toujours de cette architecture tradie moderne. Il s'agit bien évidemment de Jafar Sijel Massi, architecte et spécialiste bioclimatique qui répondait aujourd'hui à notre question sur aujourd'hui l'architecture tradie moderne, notamment vernaculaire. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir, je vous remercie et j'espère que j'ai été clair et qu'on comprend que notre continent a des choses à apprendre au reste du monde.
Et tout ça dans la durabilité de la confiance renouvelée, chers amis auditeurs, dans votre émission Durabilité. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.